Bonjour à toutes et à tous, il est 8h. Dans la matinale, l'info locale et nationale et la météo dans l'Ain. Dans la matinale, l'info locale et nationale et le temps qu'il fera aujourd'hui dans l'Ain. Cette semaine, nous nous intéressons aux associations qui œuvrent pour les familles et les enfants touchés par le cancer. Aujourd'hui, vendredi, on diffuse en entier les interviews passées ces derniers jours. À 8h20, l'artiste de la semaine. À 8h30, Alain Rude nous parle du cyclocross, c'est le nez dans le guidon. À 8h45, l'agenda culturel, le carnet, présenté par France et Thomas.
Radio B.
Les bonnes ondes.
On rediffuse aujourd'hui les deux interviews en entier qui sont passées cette semaine. Celle de Pascaline Bargel de l'association Hugo et celle de Leïla Kabesh pour Sourire d'enfant. Toutes deux agissent dans la lutte contre le cancer pédiatrique. On écoute maintenant Pascaline Bargel. Pascaline Bargel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Hugo qui récolte les dons en faveur de la lutte contre le cancer pédiatrique. Pourquoi vous avez choisi spécifiquement de lutter contre les cancers qui touchent les enfants ?
Alors, tout simplement parce que j'ai été touchée personnellement quand mon fils Hugo est tombé malade en 2011 et qui a été atteint d'une leucémie. Donc du coup, on a créé cette association suite à son décès en 2012. Et donc on a créé cette association en 2014 parce qu'on a vu tous les besoins que les chercheurs avaient en termes de finances pour la recherche pédiatrique.
Est-ce que vous avez peut-être quelques chiffres par exemple sur la plateforme de cagnotte en ligne Litchi, il y a beaucoup d'appels aux dons pour les enfants touchés par les maladies. Et en France, est-ce que vous savez combien il y a d'enfants qui sont touchés par le cancer ?
Alors, chaque année, il y a 2500 cas qui sont déclarés chaque année. 500 enfants décèdent. Et surtout, il y a un chiffre qui est important, c'est que sur l'ensemble des dons nationaux qui sont faits sur la recherche pédiatrique, il y a seulement 2% qui sont alloués à la pédiatrie. Et ça, peu de personnes le savent. Et c'est pour ça qu'on est des dizaines et des dizaines d'associations dans toute la France qui luttons justement pour que ce 2% augmente et soit à égalité avec la recherche pour les adultes.
Est-ce qu'on a une idée des causes de ces maladies et est-ce que c'est en augmentation peut-être, enfin j'ai vu qu'il y avait peut-être des enjeux environnementaux.
Alors moi je ne suis pas de la partie, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. En tout cas ce que je sais c'est qu'au niveau de la leucémie, il n'y a pas de, a priori les chercheurs disent qu'il n'y a pas d'effet extérieur, que c'est de toute façon un bug génétique et que de ce fait-là, ben, eux ils recherchent la genèse justement de cette anomalie. Après effectivement ben, sur les cancers organiques, il peut y avoir des phénomènes extérieurs mais que je ne connais pas parce que je ne suis pas scientifique.
Et dans la guérison, le traitement c'est le même pour les enfants et pour les adultes ?
Alors actuellement, c'est ce qui est un petit peu difficile, c'est que parfois, comme justement les traitements ne sont pas forcément adaptés à la pédiatrie, il y a des traitements qui sont prescrits aux enfants et qui sont trop forts et qui justement bah, parfois combattent la maladie, mais combattent aussi les bonnes cellules qui permettent à l'organisme de se maintenir.
Et du coup, après, il y a des séquelles qui peuvent rester si justement ce traitement est trop fort ?
Oui, il y a des séquelles, effectivement. Il y a des enfants, effectivement, qui ont le bonheur de pouvoir se sortir des maladies. Il y a toujours quand même des séquelles, et notamment un que je connais. Après, j'en connais pas d'autres, mais au niveau de la fertilité, quand il y a un traitement avec des rayons, ben forcément les enfants, que ce soit garçons ou filles, sont souvent infertiles. Donc ils sont obligés de prendre des précautions avant, quand c'est possible, notamment pour les garçons, de pouvoir congeler les spermatozoïdes pour pouvoir procréer plus tard. Voilà, donc ça fait partie d'une des anomalies, mais après, moi, j'en connais pas énormément, toujours dans l'idée que je ne suis pas scientifique.
Et du coup, l'association Hugo lutte contre ces cancers qui touchent les enfants et vous récoltez des dons,
oui.
Donc pour la recherche.
Alors, on récolte des dons via nos manifestations. L'année dernière, donc, on avait donné. Donc, on récolte des dons et on donne directement aux chercheurs de l'IHOP. C'est l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique du centre Léon Bérard à Lyon. Voilà, donc c'est une unité qui a été créée spécifiquement pour la pédiatrie, et donc où Hugo a été soigné, et donc on est en lien avec eux, et on a donc une convention avec eux, où on reverse directement le bénéfice de nos actions à l'IHOP. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, on le dit bien aux donneurs parce qu'effectivement, il y a une transparence. Et donc, notre dernier don, ça a été 13 800 euros sur une année.
Et donc, 13 800, ça fait beaucoup. C'est récolté comment ?
Alors, on le récolte à travers nos présences auprès d'autres associations. On est présent auprès de Montagnat au niveau de la fête d'été. On vend des crêpes, on fait des choses comme ça. Mais là, depuis 3 ans, on a créé un challenge trottinette. Donc, qui est destiné spécifiquement aux enfants. Et on récolte des dons parce qu'on arrive à sponsoriser les équipes qu'on met en place. Et c'est ce qui nous permet de reverser une bonne partie de nos fruits, en fait, du fruit de nos actions. Il y a ça, on a fait nos 5 ans, en 2019, on a fait les 5 ans de l'association, on a fait un repas d'encens qui nous a permis aussi de générer des dons. Donc cette année, je pense qu'on atteindra plus sur les dons 2019. Donc c'est décalé, on fait le don en 2020, c'est sur le fruit 2019, et on va atteindre les 15 000 euros. Donc on est assez satisfait.
Est-ce que vous avez le sentiment que la recherche progresse ?
Oui, alors, que ça progresse, j'espère, j'imagine. On a effectivement des liens avec les professeurs, donc ils nous parlent effectivement des recherches qui sont en cours. On fait partie maintenant d'une fédération qui s'appelle Grandir sans cancer, qui est basée donc sur Paris. Dernièrement, donc au mois de mai 2019, nous sommes allés tous ensemble, une multitude d'associations de toute la France, on s'est réunis pour aller à l'Assemblée nationale pour faire valoir des droits de confort au niveau des enfants et aussi des parents, pour parler aussi d'une allocation de décès qui n'est pas allouée aux enfants et qui est allouée à tout salarié. La sécurité sociale donne 3 600 euros pour tout salarié, mais c'est pas donné aux enfants aux personnes de moins de 18 ans. Donc quand ces enfants décèdent, il n'y a pas d'allocation, les parents doivent se débrouiller. Donc ça, on a œuvré dans ce sens-là, justement pour faire bouger les choses. Donc on a un volet récolte de dons, puis on a un volet social qui vient de se développer, et on est content parce que du coup, on fait appel aux députés de nos circonscriptions pour faire bouger les choses, pour que ça fasse monter les choses et qu'il y ait des lois qui soient créées pour au bénéfice des enfants.
Et ça a marché ? Il y a eu, est-ce que l'État, les députés ont été dans votre sens ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de. Il y a eu des projets de loi qui n'ont pas été retenus. Mais effectivement, moi, j'ai reçu un courrier là, parce qu'il y a une demande qui a été faite via un député du département. Et j'ai eu une réponse typiquement politique, hein, qui fait que on répond à côté, on dit ce qui existe déjà, mais on ne répond pas à ce qu'on a besoin, et notamment cette allocation. Voilà, on nous dit ce qui existe. Ouais, mais voilà, aujourd'hui, l'allocation, ils n'y répondent pas. Et pourtant, c'est quand même une urgence. Quand des parents perdent un enfant, on a autre chose à penser que de gérer la partie financière. Si ça, c'est au moins exclu de notre problématique du moment, on peut vivre plus, je vais dire, pas plus facilement, mais avec d'autres moyens, le deuil de notre enfant. Enfin, voilà, il y a une partie humaine qui n'est pas prise en compte.
Et cette partie humaine, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement peut-être de l'État public, des familles et des enfants, ou pas du tout ?
Alors, quand on est allé à l'Assemblée nationale, on a rencontré un chercheur qui était sur le sud de la France, et qui nous a expliqué quand il fallait, sur un programme par exemple de 150 000 euros pour une recherche bien spécifique, il avait 12 000 euros de l'État, et le restant était divisé entre une autogestion et les petites associations. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ils ont des fonds propres, ils les utilisent, donc à hauteur de, je vous dis 12 000 euros, c'est 12%. En fait, l'État donne Après, le reste est divisé en deux entre l'autofinancement et les petites associations comme l'association Hugo. Donc, ça veut dire qu'il y a 45% de financement qui est géré par des petites associations. Donc, voilà, entre 12 et 45%, ben voilà, c'est l'État, quelque part, se décharge et il laisse les petites associations œuvrer. Donc, heureusement qu'on est tous présents dans toute la France.
Oui, il y en a beaucoup, des assos.
Oui, oui, oui. Bon, en fait, je pense que de par le fait de perdre un enfant, on souhaite lui rendre hommage. Et à travers une association, il n'y a rien de mieux que de le faire comme ça. Parce que ça, effectivement, ça... Je vais dire que, entre guillemets, ça donne un sens à son départ. Et puis ça honore, en ce qui me concerne, ça honore le combat que notre enfant a mené contre la maladie.
Et aussi, est-ce qu'en plus de tout ça, de l'hommage, est-ce que à vous, ça vous permet d'avancer peut-être en aidant les autres ?
Bien sûr, c'est une force de créer cette association. Humainement, c'est puissant. Parce que, voilà, parce que moi, je sais qu'à titre personnel, en tant que maman, je pense à mon fils à chaque fois qu'on réalise une action. Et à chaque fois qu'on va faire un don à l'IHOP, eh ben, on se dit, voilà, il doit nous, quelque part, nous voir quelque part et être fier de ce qu'on fait. Donc, bien sûr que c'est un moteur et ça nous permet de continuer à vivre.
Pascaline Bargel, merci.
Merci à vous.
L'association Hugo récolte donc des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Nous écoutons à présent Leïla Kiabèche de l'association Sourire d'enfant qui fournit des magasins en emballage et qui a des partenariats pour récolter des fonds. Leïla Kiabèche, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association Sourire d'enfant basée à Bourg-en-Bresse.
Exactement.
Mais elle a une influence dans toute la France.
Exactement. On intervient vraiment à l'échelle nationale et le siège social est basé à Bourg-en-Bresse.
Et donc, il y a combien de bénévoles dans cette association ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, le nombre de bénévoles s'élève à 252 bénévoles, mais dans toute la France.
Et dans l'Ain, à peu près, vous savez où ?
Dans l'Ain, on est une quarantaine de bénévoles, des partenaires qui vont faire des actions bénévolement au profit de l'association Sourire d'enfants. Donc, ça va être beaucoup des groupes d'étudiants aussi qui vont se mobiliser sur un an, sur deux ans. Donc, le plus dur pour une association, c'est justement de garder ses bénévoles. Mais quand la motivation est là, c'est vrai qu'on arrive quand même à... Ils savent pourquoi ils le font.
Et donc les partenaires, il y a des entreprises ou...
Exactement. Donc on a nos partenaires, donc notre seule source de financement, c'est aussi tous les commerçants de proximité. Parce que c'est grâce à la vente de nos emballages qu'on arrive à récolter des fonds, mais surtout qu'on arrive à faire connaître l'association. Mais on a aussi tous nos partenaires, donc ça peut être aussi bien des particuliers, des étudiants, puis des entreprises également qui font des dons directement à l'association.
Et donc est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette association ?
Alors oui, bien sûr. Donc l'association, elle a été créée en 2012. Le but, c'est de pouvoir aider financièrement les familles qui sont touchées par la maladie, l'handicap d'un enfant. On intervient aussi beaucoup au niveau des hôpitaux, où là on nous connaît beaucoup plus avec les clowns, les magiciens qui passent à l'hôpital. Et l'objectif est de pouvoir justement dédramatiser un petit peu le milieu hospitalier pour les enfants, qui puissent mieux gérer justement la séparation familiale quand les parents ne sont pas forcément disponibles. On est présent sur un deuxième pôle, c'est les associations locales. Souvent elles sont créées par les parents, donc c'est pour ça qu'elles portent aussi souvent le nom de l'enfant. Et le dernier point, c'est également être présent directement auprès des familles, où là, on va vraiment les aider financièrement. Donc, on est une association de soutien et de financement. Donc, on n'a pas de baguette magique. On ne peut pas rendre la santé de l'enfant, mais on est là vraiment pour améliorer son quotidien et puis améliorer par le biais on va financer un peu tout ce qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Ça peut être des thérapies, ça peut être aussi du matériel médical. Et au jour d'aujourd'hui, plus on fait parler de l'association, mieux c'est, parce qu'on va pouvoir aussi recenser un maximum de personnes qui sont dans le besoin et qui savent pas forcément non plus vers qui s'adresser pour demander une aide.
L'État participe ou vous aide ?
On n'a aucune aide institutionnelle, on n'a aucune aide de l'État. Nous, toutes les actions qu'on a pu réaliser, pour citer quelques chiffres, depuis la création de l'association depuis 2012, c'est 902 000 euros qu'on a pu reverser. Et sans l'aide de l'État, on est assez fiers d'annoncer ce montant parce que c'est grâce justement à tous nos bénévoles, à tous nos partenaires qui nous font confiance, grâce à nos emballages, qu'on arrive à récolter des fonds puis qu'on arrive justement à répondre présent auprès des familles.
Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui demandent, parce que c'est elles qui font la démarche de vous demander de l'aide ?
Oui, oui.
Et est-ce que vous pensez que vous êtes visible ? Si une famille a un enfant malade, elle vous connaît forcément ou...
Alors, elle va nous connaître. Alors, le bouche à oreille fonctionne pas mal. Donc là, c'est vrai qu'on a de la chance d'être en 2020, donc les réseaux sociaux aussi contribue parce qu'on a aussi notre site internet, on a notre page Facebook également qui est présente. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous connaît aussi par le biais des emballages parce que dessus, il y a les coordonnées de l'association. Donc c'est souvent que les familles Il n'y a que les personnes qui vont être touchées, concernées par la maladie, l'handicap d'un enfant qui va s'attarder sur les emballages et qui vont justement aller se renseigner. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à recenser beaucoup de besoins.
Est-ce que vous pensez que vous allez un jour devoir changer de mode d'action vu que les emballages, c'est vrai qu'il y a la loi anti-gaspillage, est-ce que vous êtes voué à changer l'offre ?
Oui. Alors au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas notre principale source de financement. Loin de là, heureusement, on a encore pas mal de partenaires, pas mal de dons voilà, qui arrivent. Et c'est vrai qu'on arrive à recenser les besoins. On a aussi la télé aussi, qui participe, donc qui nous met aussi en lumière. On avait les anges de la télé-réalité qui nous a rapporté 10 000 euros. On a TF1 également. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tous ces partenariats aussi qui se mettent en place.
Et TF1, ils font quoi ?
Alors on avait notre marraine, hein, qui est Capucine Anav, qui, à chaque fois que dès qu'il y a une action qui se met en place sur TF1, donc elle est très médiatisée, elle va concourir ou pouvoir récolter des fonds au profit de l'association Sourire d'Enfant. Donc Sourire d'Enfant est toujours mis en lumière. La dernière action, c'est 25 000 euros que TF1 a pu récolter, que grâce à Capucine, justement, suite à une émission, c'est « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que 100% des sommes qui sont récoltées sont reversées 100% pour les causes qu'on défend, donc auprès des hôpitaux, des associations et auprès des familles.
Et donc pas la recherche, vous avez fait le choix d'être plutôt dans l'accompagnement.
Alors dans l'accompagnement, beaucoup. La recherche, on participe aussi parce qu'on a des partenariats avec des grosses associations, en partenariat avec Vaincre la mucoviscidose, où là on est là chaque année pour pouvoir répondre présent. Donc c'est un partenariat qui nous tient à cœur, donc ça nous permet aussi de contribuer par rapport à la recherche pour la mucoviscidose. Dans le service oncologie aussi, sur Lyon, où on participe beaucoup également sur les services de pédiatrie. Et donc du coup on est aussi dans... On participe aussi activement par rapport à la recherche, oui.
Les enfants malades, qu'est-ce qu'ils demandent le plus ? Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir ?
Ce qu'on va financer beaucoup. Alors au jour d'aujourd'hui, on avait dans les services de pédiatrie, ce qui avait aussi pas mal de succès, c'était les petites voiturettes électriques, où les enfants s'accompagnaient eux-mêmes au bloc opératoire, sans trop de médicaments, donc c'est vrai que c'était super, avec la banane, donc il n'y a rien de mieux. Et surtout aussi, ce qu'on va financer, ça va être les fauteuils roulants, ça va être aussi des thérapies à l'étranger, qui ne sont pas reconnus en France. Et aussi, ce qui est aussi très, très important, c'est toutes les opérations aux États-Unis, tout ce qui est opération par rapport au pavillon auditif. Donc, on a des enfants qui sont nés sans pavillon auditif et qui le seul espoir pour pouvoir essayer d'écouter des deux oreilles, et bien, c'est de pouvoir se faire opérer aux États-Unis. Et puis là, par contre, oui, on a un gros besoin et beaucoup de demandes dans ce sens-là.
Et est-ce que vous intervenez aussi après, parce que l'après-cancer n'est pas forcément évident ?
On intervient pendant et le après. Cancer, où là on va pouvoir aussi financer, où on va mettre en place des partenariats avec les pharmaciens, où on va prendre en charge également des produits pharmaceutiques qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. On va être aussi présent pendant, parce que certains enfants, bah, du coup, suite à leur chimio, suite à, voilà, à leurs soins qu'ils doivent faire à l'hôpital, donc forcément ils sont un peu déscolarisés, donc on a beaucoup de sens de demande, où il faut justement financer des petites tablettes ou voire même des ordinateurs portables pour qu'ils puissent continuer aussi leur scolarité à l'hôpital.
Les enfants se déplacent ou vous privilégiez les actions à l'hôpital ?
On essaye de faire un peu les deux, donc on essaye toujours d'avoir un petit contact aussi avec les enfants, donc à l'hôpital forcément, donc on aime bien aussi aller à la rencontre des personnes qu'on aide, et puis aussi, oui, ça nous permet aussi, quand on a des événements aussi, de les inviter, donc quand on a des gros événements, par exemple sur Chambéry, où on a un partenaire qui va pouvoir aussi organiser des baptêmes de voitures de luxe, donc du coup on invite les enfants, on a notre marraine qui fait beaucoup de théâtre, donc on invite aussi les enfants, donc on essaye d'être en contact aussi directement auprès des familles et puis auprès des enfants. Ça leur permet aussi d'avoir des visages sûrs derrière Sourire d'Enfant, bien sûr.
Et est-ce que donc pour un futur plus proche, bien vous sûr. Avez des événements à annoncer ?
Sur l'hôpital de Bron, pour le maire enfant, on a financé la fresque murale dans les services de pédiatrie. Donc là, on va avoir l'inauguration de la fresque. Ça permet d'égayer un petit peu les couloirs de l'hôpital. Et puis justement, c'est dans le service aussi oncologie.
Leïla Kabej, merci.
Merci à vous de nous avoir invités, de mettre en lumière l'association, parce que c'est vrai que c'est important pour nous.
Radio B. 90 FM.